La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de la mêlée de l'info, l'émission débat de Radio Présence. L'actualité nationale est toujours très dense cette semaine. Nous allons en parler avec ceux qui ont accepté de débattre ensemble aujourd'hui. Je salue Régis Godec, membre du Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts, soutien du Nouveau Front Populaire. Je salue aussi Bruno Cyr, professeur agrégé en économie et gestion, ex-président de l'Université Toulouse-Capitole, producteur de l'émission « À bâton rompu » sur Radio Présence. Et je salue enfin Ulrich Terrier, membre des Jeunes avec Macron, mouvement dont il est le référent pour le département du Gers. Bienvenue également à tous les trois et en particulier à Ulrich Terrier qui fait ses débuts à la mêlée de l'info. Comme vous le savez, Michel Barnier a présenté le projet de loi de finances la semaine dernière, conçu selon les mots du Premier ministre pour contenir le déficit à 5% du PIB en 2025. Grâce à un effort de 60 milliards d'euros, ce document est examiné par la Commission des finances de l'Assemblée nationale depuis mercredi. Le budget de l'État 2025 intègre dans ses grandes lignes 41,3 milliards d'euros d'économies dans les dépenses et 19,3 milliards de recettes supplémentaires. Le moins qu'on puisse dire est que jusqu'alors, il n'a pas suscité un fervent soutien au sein de la classe politique nationale, du Nouveau Front Populaire au Rassemblement National, en passant même par Renaissance. Pour votre part, après l'avoir regardé dans le détail, lui trouvez-vous tout de même quelques vertus, compte tenu du déficit public et du contexte économique français, vous semble-t-il à la fois trop austéritaire dans certains domaines et injuste pour certaines catégories de la population, alors que d'autres ne seraient pas assez mises à contribution. On commence avec Régis Godec.
Bonsoir. Ben oui, on a regardé avec attention effectivement ce projet de loi de finances, parce que c'est quand même le baptême du feu pour Michel Barnier, sans vouloir prendre une métaphore guerrière, mais pour l'ensemble de son gouvernement, ça va être une épreuve difficile. Et on est d'abord un petit peu stupéfait que les personnes qui sont actuellement au gouvernement fassent semblant d'être surpris de la situation. Il y a eu là un acte de dissimulation massif sur la situation des finances publiques de notre pays. Et on en veut évidemment aux personnes qui ont gouverné jusqu'ici, et au gouvernement de Bruno Attal en particulier, ou les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron. C'est d'abord mentir aux Français de créer une situation comme celle-là et ne pas vouloir en porter la responsabilité. Et c'est un échec de la politique économique qui a été mise en œuvre et qui est portée par Emmanuel Macron et qu'il souhaite maintenir malgré le résultat des législatives qu'il a mis en défaut. La politique économique qu'il a voulu mettre en place depuis 2017, il nous en parle, c'est finalement la politique de l'offre. On réduit les charges pour les entreprises et on espère dégager un choc économique qui fait qu'il y a une répartition des richesses, une relance de la croissance, la théorie du ruissellement, l'ensemble des éléments qui sont mis en avant par le gouvernement Emmanuel Macron et qui ne portent pas leurs fruits. On le voit, on dépense quoi qu'il en coûte, on dépense et surtout on se prive de recettes quoi qu'il en coûte, parce que les 60 milliards d'euros, le déficit public de manière générale, est lié avant tout à une diminution des recettes plutôt qu'à une augmentation des dépenses. Et le projet de 60 milliards qui va être débattu au Parlement est vraiment injuste. Il est injuste parce qu'il fait porter la charge sur les plus faibles, et parce qu'il reporte des dépenses sur les collectivités locales, notamment avec un plan de 5 milliards d'euros de privation de recettes pour les, c'est plus compliqué que ça, mais je le fais rapidement, pour les collectivités locales, qui va avoir un impact économique extrêmement fort. Et pourquoi les collectivités locales, pourquoi la métropole de Toulouse, pourquoi le département serait privé de recettes du fait de la mauvaise gestion du budget de l'État? Nous ne comprenons pas cette situation et j'espère que le débat au sein du Parlement pourra revenir sur ces privations de recettes pour les collectivités locales. Et puis il y a une grande victime aussi de ce projet de loi de finances, c'est l'écologie. Le fonds vert qui est prévu de 1,5 milliard d'euros, des projets qui sont lancés dans la réhabilitation énergétique, dans les mobilités qui vont être brusquement stoppés par des décisions du gouvernement sur un plan d'urgence et d'économie. J'espère que dans la situation politique dans laquelle nous sommes, le Parlement va pouvoir améliorer ce projet. Mais j'en doute. J'ai peur que tout cela finisse au 49-3 et qu'il y ait un passage en force sur ce budget, qui serait évidemment ben, le premier acte du gouvernement Michel Barnier et donc le premier échec du gouvernement de Michel Barnier. Concernant le nouveau Front populaire, nous ne nous contentons pas de contester ce projet, nous faisons des propositions et nous avons présenté un projet avec 49 milliards d'économies et surtout avec des recettes nouvelles. Parce que nous considérons que pour répondre à cette situation, eh bien, il faut faire contribuer les personnes et les sociétés qui en ont les moyens et qui ont profité de la situation économique sur les dernières années en augmentant un certain nombre de recettes pour les entreprises les plus riches ou pour les familles les plus fortunées.
Alors, je parlais d'éventuelles vertus pour avoir le budget de Michel Barnier. Vous ne lui en trouvez aucune ?
Il a prononcé le mot de dette écologique, je le reconnais, mais cela ne nous avance pas beaucoup sur la situation financière qu'il propose.
Oui, aussi.
Alors, évidemment, Michel Barnier, c'est la quadrature du cercle pour lui. Il est dans une situation qui est extrêmement difficile, et pas parce qu'il hérite d'un problème qui, quand même, est une surprise, même si un certain nombre de gens étaient informé que les finances étaient en train de déraper, même si, semble-t-il, l'ancien ministre de l'économie, M. Le Maire, avait prévenu le président de la République qui, pour des raisons politiciennes, en raison des échéances électorales, a, semble-t-il, dit « on touche à rien » et donc a laissé filer les choses au lieu de serrer un peu les boulons du budget. On se retrouve au mois de septembre avec une situation extrêmement difficile et un Premier ministre qui a 15 jours pour préparer un budget. Donc évidemment, ce n'est pas dans la tradition. Dans la tradition, les budgets commencent à être préparés au mois de mai-juin. Il y a des va-et-vient, des allées, des retours, des discussions, des débats. Tout ça n'a pas eu lieu. Et donc, dans l'urgence, comment faire pour redresser les finances publiques, parce que c'est là où est la quadrature du cercle. C'est-à-dire, si on ne fait rien, supposons qu'on reconduise le budget de l'année dernière, par exemple, ce qui serait une possibilité sans doute, eh bien dans ce cas-là, on va être mis sous tutelle de l'Europe, comme ont été mis sous tutelle des pays comme la Grèce, le Portugal, il y a quelques années, et ça sera extrêmement douloureux, parce que là, on ne nous demandera plus notre avis, on nous imposera les choses. Donc, Michel Barnier, il a en face de lui la responsabilité d'essayer de trouver une solution qui éviterait cette espèce de déshonneur et de perte de crédit de la France sur le plan européen, qui est quand même un des grands pays fondateurs de l'Europe. Donc, essayer de sauver les meubles. Et évidemment, pour sauver les meubles dans l'urgence et de la façon la plus efficace, le recours à l'impôt est la seule solution. Faire des réformes structurelles, ça ne peut pas régler les problèmes sur le court terme. Donc, pour juger de l'efficacité du gouvernement actuel en place, de Michel Barnier, il faudra attendre de voir le budget de l'année prochaine pour voir si les réformes structurelles susceptibles de redresser les finances de notre pays, qui sont structurellement déficit, c'est pas juste les 6 derniers mois, eh bien, il va falloir faire ces réformes, mais ce n'est pas en 15 jours qu'on peut les faire. Et surtout, ces réformes n'ont d'effet que sur des périodes plus longues, c'est-à-dire de plusieurs mois, voire de plusieurs années pour les vraies réformes structurelles. Donc, à court terme, il est obligé de passer par l'impôt, ce qui fait hurler la droite. En même temps, il est obligé aussi d'essayer de mettre en place des réformes structurelles et notamment de réduire en particulier le nombre de fonctionnaires. Vous savez qu'on est le pays qui est le plus administré de tous les pays de l'OCDE. Quand on fait le ratio entre nombre de fonctionnaires et population totale, on est le pays qui a le plus de fonctionnaires et on voit bien que nos services publics ne marchent pas bien. Et notamment dans les domaines régaliens qui sont la justice, la santé, la sécurité, etc. Donc y a de vrais problèmes structurels. Qui est responsable de tout ça ? C'est pas spécialement M. Macron, mais enfin M. Macron, il y a un moment qu'il est là. Mais avant lui, il y avait Hollande. Avant lui, il y a eu tout un tas de réformes dont s'est glorifiée la gauche pendant longtemps. On va réduire le temps de travail, on va abaisser l'âge de la retraite. Évidemment, si on ne travaille plus ni par semaine ou par mois, ni sur la durée totale de la vie, alors qu'on continue à vouloir vivre de mieux en mieux et à vivre de plus en plus longtemps, eh bien, il y a un moment où il faut payer l'addition. Donc, on sait énormément, le pays s'est énormément endetté. Et c'est cet endettement qui pèse de façon dramatique sur les épaules des générations qui arrivent maintenant. Et effectivement, il va falloir réformer structurellement le pays et dire qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à vivre au-dessus de nos moyens, c'est-à-dire au-dessus de ce que l'on est capable de produire sans s'endetter. Je crois que tout le monde peut comprendre ça. Et la gauche a toujours des solutions miracles qui consistent à faire la politique de la demande, parce que j'ai entendu tout à l'heure que vous critiquiez la politique de l'offre qu'a essayé de mettre en place M. Macron. Mais il a bien raison de mettre en place une politique de l'offre.
Il a surtout baissé les recettes.
En créant des richesses qu'on peut les partager. Et faire une politique de la demande,
Il a surtout privé l'État d'un grand nombre de recettes.
Vous êtes encore jeune, mais moi je l'ai vécu de plein fouet. En 1981, quand la gauche est arrivée au pouvoir avec l'alliance des communistes et des socialistes à l'époque de Mitterrand, ils ont fait une politique de l'offre. Ça a duré 2 ans. Et 2 ans, et tout de suite, Mitterrand lui-même a fait marche arrière tourte, virage à 180 degrés, ils se sont rendus compte que c'était une impasse. Alors maintenant, je vois la gauche qui veut revenir sur des politiques de la demande en critiquant les politiques de l'offre. Il faut être raisonnable, on a besoin de créer de la richesse, et ça se fait par le travail et par l'investissement dans les entreprises, et c'est la condition du partage que l'on peut envisager de faire, et notamment grâce à l'impôt. Alors, on est quand même le pays où il y a le plus d'impôts en France, on le sait bien. Donc, moi, je trouve que M. Barnier est vraiment dans une mission impossible. Tout le monde, sur l'échiquier politique, va avoir une bonne raison de voter contre ce qu'il fait, de toute façon. Donc, tous, à gauche, à droite, au milieu, ils auront tous une bonne raison. On le voit bien, c'est la cacophonie. Mais moi, je vous fais le pari qu'ils vont quand même le laisser faire. Et qui vont accepter le 49-3 s'il est obligé d'en finir là, parce que sinon on
ne
paiera
pas
les fonctionnaires au mois de janvier, parce qu'il faut quand même un budget, sinon les fonctionnaires ne seront pas payés au mois de janvier. Donc il faudra bien trouver une solution. Et on ne va pas reconduire le budget de l'année dernière, qui a été une catastrophe. Enfin, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, parce qu'on peut, ça fait partie du possible. Donc ils vont le laisser faire. Pourquoi ils vont le laisser faire? À la fin du compte, ils le laisseront faire. Parce qu'il est en train de faire le sale boulot, c'est-à-dire le sale boulot que personne n'a été capable de faire et que personne ne veut faire. Et donc au bout du compte, ils seront tous bien contents qu'il ait fait le sale boulot. Le critiquer, ça, ils le critiqueront, ils crieront tous comme des orfraies. Mais enfin, ils sont tous plus ou moins responsables. Ils ne peuvent pas dire c'est la faute de l'autre. Ça, c'est trop facile. Ils sont tous plus ou moins responsables. Sauf peut-être l'extrême droite qui n'a jamais gouverné, mais tous les autres ont gouverné. Et donc, effectivement, au bout du compte, moi, je suis sûr qu'ils vont garder Barnier. Et qu'ils vont le garder plus longtemps que jusqu'au mois de juin. Parce qu'au mois de juin, ils vont se dire, si on est responsable de la catastrophe qui va se passer en France. Alors, bon, la France insoumise et sans doute Europe Écologie Les Verts, qui aiment bien foutre le bordel, passez-moi l'expression, hein, mais c'est une expression maintenant consacrée. Eux, ils sont prêts à faire tomber le gouvernement, c'est sûr. Mais les autres, le Rassemblement National, les socialistes qui espèrent gouverner, ils vont tous se dire, si on fait une dissolution, on n'est pas sûr de retrouver nos sièges. Tous les députés se sont endettés pour financer leur campagne à 15 000 euros. Si un an après, ils perdent leur job, il va falloir qu'ils se réendettent pour faire une nouvelle campagne. Je pense que ça va en faire réfléchir certains. Et ils vont se dire, on va attendre les présidentielles. Donc finalement, M. Barnier, on va le laisser là tranquillement. Moi, c'est mon analyse.
Alors, on reparlera de cet aspect des choses. Ulrich Terrier, vous, d'une manière générale, qu'est-ce que vous pensez de ce budget ?
Alors, ce budget, il est extrêmement important pour le pays. Aujourd'hui, nous devons avoir un budget pour l'année 2025. Comme ça vient d'être dit, sinon, on aura de gros soucis. On ne pourra pas payer nos fonctionnaires. On ne pourra pas dégager des politiques publiques. Et aujourd'hui, le pays a besoin d'être réformé et de pouvoir avancer. Le groupe Ensemble pour la République, mené par Gabriel Attal, est dans une posture d'accompagner le Premier ministre et le gouvernement pour maîtriser nos comptes publics, puisque, comme vous l'avez dit, M. Barnier était courageux, a accepté le rôle de Premier ministre, bien que, et je m'en désole, les oppositions, avant qu'il ait réalisé son discours de politique générale, avaient déjà annoncé qu'ils allaient voter une motion de censure. Donc là, on voit bien l'hypocrisie de la chose. On a besoin aujourd'hui d'avoir un gouvernement qui est du côté de la responsabilité et de la construction de solutions. Aujourd'hui, on ne peut plus s'opposer pour s'opposer, mais il faut trouver enfin des solutions pour que le pays avance et trouver un moyen de redonner aussi de la capacité à ce pays de souveraineté. Puisque quand il y a une dette, on doit payer des intérêts. Et les intérêts, ils augmentent au fur et à mesure. Et avec ces intérêts, nous ne pouvons plus dégager des capacités de choix de politique publique. Le budget qui est présenté aujourd'hui, c'est un budget qui est ambitieux et c'est un budget d'équilibre. On a d'un côté le Nouveau Front Populaire qui nous dit que c'est un budget d'austérité. Et de l'autre côté, nous avons l'UDR rallié au Rassemblement National qui nous dit que c'est un budget de gauche. Donc moi, je crois que le budget qui est présenté aujourd'hui, c'est un budget d'équilibre et qui permettra à la fois de prendre des mesures qui sont responsables et courageuses. Et moi, bien sûr, je lui trouve des vertus à ce budget puisqu'il permet de mettre de l'ordre dans nos dépenses. Il permet de réduire d'un côté le déficit et faire des économies qui doivent représenter la majorité de l'effort. Et oui, parce que si on fait passer la taxation comme mesure prioritaire, on le sait, ça va réduire la croissance, déjà qu'elle est en difficulté, et ça va créer du chômage. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron a réussi à atteindre quasiment le plein emploi. Ça, on peut lui reconnaître. Et donc, on doit continuer à aller dans ce sens pour que le pays puisse enfin se redresser et retrouver une souveraineté nationale et internationale.
Alors, sur l'état quand même de nos dépenses publiques et du déficit public, bon, Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs sont aux affaires depuis 7 ans. Vous pensez qu'ils ont agi comme il le fallait, que la situation actuelle n'est pas forcément de leur fait? C'est un peu ce que disait d'ailleurs Bruno Cyr, qui paye des choses qui sont accumulées depuis plusieurs gouvernements.
Alors, si je peux apporter un élément de réponse, déjà, il faut arrêter une hypocrisie, c'est-à-dire que les oppositions aujourd'hui disent que l'endettement, c'est une catastrophe, c'est pas normal, ça a été un dérapage budgétaire de la faute du président de la République. Sauf que tout le monde était bien content, à la période de la crise sanitaire, que le gouvernement choisisse d'aider nos entreprises, nos agriculteurs, nos petites PME, tout le monde nous l'a dit. Qu'ils étaient contents qu'on les aide et que ça a permis d'éviter le chaos. En Belgique, on a eu une inflation des prix énorme. On a eu des dizaines d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte. Et je crois que la politique a été menée courageusement, nous a conduit dans cette situation. Aujourd'hui, il faut réagir. Mais sauf que si nous n'avions pas mené cette politique-là, je peux vous dire que la France serait dans une situation qui serait encore plus catastrophique que ce que les oppositions veulent bien vouloir dire.
Régis Godec, si on rentre un peu dans le détail du budget, et là je vais m'intéresser à la partie recettes, puisque le Nouveau Front Populaire a pas mal de propositions là-dessus. Bon, il y a tout de même, dans les recettes supplémentaires, des contributions qui sont demandées aux entreprises, de nouvelles mesures fiscales, et notamment une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises qui devrait rapporter 8 milliards d'euros pour vous. Est-ce que déjà ça va dans le bon sens? C'est pas assez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus, selon vous?
Eh bien, oui, je pense que là, on parle du budget et on a l'impression que c'est un budget extrêmement dépensier, que ce qui a été jusqu'ici, on a amené le pays à la banqueroute avec un excès de dépenses. Alors déjà, je vais interroger Bruno Cyr, mais vous aussi, Ulrich. Excusez-moi, j'ai pas retenu votre nom, mais...
Il n'y a pas de souci.
Quels sont les postes de fonctionnaires qu'il faudrait supprimer? Puisqu'on dit en France, il y a beaucoup trop de fonctionnaires. Alors lesquels faut-il fonctionner? 4000 enseignants, là, on va supprimer, hein, déjà dès 2025. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il en faut plus? Après, qui faut-il supprimer? Les policiers? Les responsables dans les hôpitaux? Les militaires? C'est ça aussi les fonctionnaires qui font vivre la vie publique en France.
Eh bien, je vais vous répondre. Évidemment que ce n'est pas dans le régalien qu'on a un problème, ni la défense, ni les forces de l'ordre, ni la santé, on ne doit diminuer le nombre de fonctionnaires, bien évidemment. Mais on peut redéployer dans certains secteurs, je pense au secteur de la santé que je connais bien, dans les hôpitaux, il y a plus d'administratifs que de médecins. Ouais, ouais. Donc il faut réduire le nombre d'administratifs, on crève. Et le problème, c'est que
présenter,
quand vous créez des emplois
un budget alternatif,
vous êtes bon. Et deuxième chose,
attendez, je vais répondre après sur les recettes.
Attendez, deuxième chose, c'est très important. Là où il y a la plus grosse réserve, c'est la territoriale. L'empilement qu'on a créé dans les territoires, les communes, les communautés de communes, les conseils de département, les régions. Alors les régions, comme c'est des grosses régions comme la nôtre, on a, soi-disant, c'était fait pour économiser des postes de fonctionnaires. Ça a multiplié les postes de fonctionnaires à peu près partout. Donc oui, il y a de grosses réserves de suradministration de ce pays, notamment dans les territoires. Et donc je trouve qu'ils ont raison de dire on va diminuer la part du budget dans les collectivités territoriales, parce que vous avez dit une chose qui est fausse tout à l'heure. Quand on parle de budget de l'État sur les 6 milliards, ça inclut l'État au sens large, c'est-à-dire 60 milliards, ça inclut l'État au sens large, c'est-à-dire ça inclut le déficit des collectivités territoriales, des régions, des départements et des agglomérations.
Non, le déficit de l'État est le déficit de l'État et la situation
non, mais
financière
sur, du point de vue européen,
je
dans
sais,
les
je sais.
Pourcents,
on
il y a
parle de déficit public et pas de déficit de l'État ou des collectivités locales.
Mais juste, j'aurais que Bruno aussi réponde sur le point que vous avez soulevé sur la suppression de 4000 postes d'enseignants. Est-ce que ça, c'est ce qu'il faut faire, ça?
Mais alors, 4000, je ne sais pas quel est le bon chiffre. J'imagine que ça a été regardé de près. Mais évidemment qu'il y a, je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'écoliers en moins. La France est dans une période de dénatalité. Évidemment qu'on ne veut pas continuer à avoir des postes de professeurs.
Nous irons expliquer à toutes les familles qui ont des enfants
mais
dont
oui,
les enseignants ne sont même pas remplacés. Mais je vais répondre.
Dans le même temps, ils augmentent le nombre d'SEH. Donc c'est assez étrange.
Je voudrais quand même qu'on parle des recettes, parce que le principal bilan d'Emmanuel Macron, qui est quand même en responsabilité depuis 2017, c'est l'effondrement des recettes, en fait, de l'État. Notamment, bon, la suppression de l'ISF, on l'a appelé le président des riches quand même à ce moment-là. Alors vous allez me dire, c'est pas à la hauteur de
ça rapporte rien, c'est symbolique l'ISF,
oui, non, c'est pas,
et
c'est,
ça fait partir les riches. Et vous, il y a une chose que vous avez
attendez,
oubliée
monsieur,
à gauche, ce n'est pas en ruinant les riches qu'on aide
les
pauvres.
On va partager mettez aussi le temps de parole, tête. Si vous êtes d'accord, entre nous trois. Donc, sur la diminution des recettes, elle est massive. Et là, on a un exemple qui est quand même assez frappant. Sanofi, le premier bénéficiaire du crédit impôt recherche. L'entreprise a largement abondé ses actionnaires et maintenant elle vend sa filiale qui produit du Doliprane pour un fonds de pension américain. Est-ce que c'est ça le succès de la politique économique d'Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est la politique qu'il faut mener, réduire et fortement les recettes des entreprises et des très riches, abonder par des subventions publiques le crédit impôt recherche des grandes entreprises privées avec des actionnaires pour mettre le pays en banqueroute. C'est quand même le principal bilan d'Emmanuel Macron. Et oui, le nouveau Front populaire a d'autres propositions. Il pourrait tout simplement confier la majorité à le nouveau Front populaire et à Lucie Castet. Et vous verriez que nous avons d'autres propositions alternatives.
Il faudrait les donner avant.
On partage
revenir
le temps
à la retraite à 60 ans, revenir avec la semaine de 35 heures.
Et nous pourrions
heures,
vous démontrer que nous avons des propositions pour sortir de la banqueroute dans laquelle Emmanuel Macron a mis le pays.
Lesquelles alors ?
Je vais laisser monsieur parler.
Terrier s'exprime là, sur l'aspect recette.
Oui, alors déjà j'ai entendu quelque chose qui vient d'être dit par mon voisin de Europe Écologie Les Verts, le fait que Emmanuel Macron aurait décidé de supprimer l'ISF et que ça aurait été une catastrophe. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Ce qu'on a vu, c'est que pour une fois, la France est enfin redevenue un pays avec une majorité d'investissements. On a pu réouvrir des entreprises. On a commencé quelque chose qui n'avait pas été fait depuis les gouvernements, depuis des dizaines d'années, c'est la réindustrialisation. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de notre souveraineté nationale de pouvoir produire en France, de pouvoir faire travailler les Français. Et vous avez également parlé de l'école. Alors je souhaiterais apporter un petit point. Ce matin, la ministre de l'Éducation nationale, Madame Jeunetté, a expliqué, puisque je pense que ceux qui nous écoutent sont intéressés par l'école, et le président de la République a, et Monsieur Barnier également, comme grande cause du quinquennat, l'éducation nationale et l'école. Cette suppression des 4000 postes aujourd'hui, elles ne sont pas arbitraires. Ces 4000 postes correspondent bien à une diminution du nombre d'élèves, notamment dans les classes de primaire. Il y a une baisse démographique, elle est là. 80 000 élèves en moins cette année pour la rentrée 2024. Et pour la rentrée 2025, ce sera 100 000 élèves en moins. Donc ça fait 180 000 élèves en moins en 2 ans. Donc on comprend bien qu'il faut adapter le nombre de fonctionnaires au nombre d'élèves. Et puis, on nous dira également qu'il serait plutôt intéressant de mettre plus de professeurs avec moins d'élèves. C'est ce qui est fait depuis des années. Et aujourd'hui, on atteint un niveau où il y a 22 élèves en moyenne par classe. Et c'est une baisse qui est continue. Et en parallèle de ça, il y a une augmentation de 3500 postes d'AESH. Et c'est très important puisque ça va permettre d'accompagner des jeunes qui sont en situation de handicap, qui ont des difficultés scolaires. Et ça permettra qu'ils réussissent aussi bien que les autres. puisque eux, il ne faut pas les laisser sur le bord de la route.
Régis Godec, il y a un autre aspect. Vous parliez de l'environnement, enfin de l'écologie, qui était la grande oubliée de ce budget. Il y a quand même une mesure là, qui va dans le sens d'une fiscalité environnementale plus sévère et qui vise essentiellement les transports polluants, surtout l'automobile. Donc il est question de renforcer le malus sur les émissions de CO2, la taxe au poids. Après, il est question aussi de toucher à l'aérien avec une hausse des taxes sur les billets d'avion. Est-ce que ça ne va pas dans votre sens finalement, ou c'est pas assez, ou c'est pas ce qu'il faut faire?
Non, ça c'est vraiment, enfin c'est
ah pour, bon, le, oui, pour quelques le vertus.
C'est vrai, en cherchant bien. J'ai vu que c'était combattu d'ailleurs par la droite, ce principe. Non, mais il est logique que les véhicules les plus polluants, et qui sont polluants de manière totalement inutile, hein, parce qu'ils sont trop lourds, notamment les SUV, il est taxé, et qu'il y a un malus qui soit plus important. J'espère que cette mesure ira jusqu'au bout, effectivement.
C'est ce qui est prévu.
Oui, c'est ce qui est prévu aujourd'hui, mais le débat va évoluer. Donc,
dans beaucoup de domaines.
On va voir là-dessus. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai plutôt vu des choses qui allaient à l'encontre. Et d'ailleurs, d'une manière générale, dans le discours de politique générale de Michel Barnier, des choses qui allaient à l'encontre des enjeux écologiques, notamment l'assouplissement du dispositif zéro artificialisation nette, qui est un dispositif quand même qui permet de baisser l'impact sur les zones naturelles de la croissance.
C'est un vrai casse-tête pour beaucoup de collectivités.
Ah, mais ce n'est pas facile de moins artificialiser. C'est une difficulté. Mais l'assouplissement n'est pas la bonne solution. Pareil sur la question des logements, qui est les passoires thermiques qui doivent cesser de pouvoir être mises en location. Je pense que revenir sur ce genre de dispositif serait néfaste. Et moi, j'attire l'attention, ce sera peut-être un peu plus tard, sur la possibilité qu'il a évoquée dans son discours de politique générale de revenir sur la loi SRU. De reprendre le projet de loi sur la réforme du logement qui avait été abandonné suite à la dissolution, parce que effectivement diminuer le nombre de logements sociaux, la construction de logements sociaux, et intégrer dans les 25% des logements qui sont d'accession sociale à la propriété, ce n'est pas une bonne solution. Et au contraire, il faut amplifier la construction, et notamment la construction de logements sociaux, pour répondre à la crise du logement, qui est la première difficulté des personnes dans notre pays, et la première source d'injustice et d'inégalité financière.
Les taxes en plus sur l'électricité?
Bon, là, y a une difficulté. C'est surtout sur le gaz qu'on serait incité à la soutenir, hein, plus que sur l'électricité, puisque le gaz est une énergie fossile. Mais il faut le voir de manière globale, hein, puisqu'il faut que ces hausses n'impactent pas les plus précaires et qu'on renforce la précarité.
Monde,
voilà. Aujourd'hui, c'est sans discernement. L'augmentation des taxes impacterait tout le monde, quel que soit le niveau de consommation. Et on a un grand nombre de citoyens et de citoyennes qui sont en situation de précarité énergétique. Il ne faudrait pas renforcer ces situations. Mais il est logique, et nous le savons, que demain, l'énergie coûte plus cher qu'elle coûtait par le passé.
Ça, vous seriez d'accord, Bruno Cyr?
Ben, moi, je vois qu'il y a beaucoup de Français qui souffrent de mauvais choix politiques. Par exemple, les agriculteurs. Toutes les décisions, une grande partie des décisions qui ont été prises pour faire plaisir à Europe Écologie Les Verts, qui est un parti essentiellement de citadins, et souvent de citadins bourgeois de grandes villes. Parce que dans les campagnes, moi qui suis paysan, fils de paysan, je n'ai pas vu beaucoup d'écologistes tels qu'on les voit à la télévision pérorer tous les matins. Et toutes ces mesures ont amené les difficultés des agriculteurs d'aujourd'hui, dans un tas de domaines. Donc que le gouvernement revienne sur un certain nombre de ces mesures qui sont en train de tuer notre agriculture, alors que parallèlement à ça, on importe de pays où il n'y a absolument pas les mêmes normes et où il n'y a absolument pas les mêmes contrôles. Donc on se fait empoisonner parce qu'on importe, et pendant ce temps, on tue nos agriculteurs qui n'arrivent plus à s'en sortir.
Et c'est les premiers écologistes, les agriculteurs.
Voilà, donc là, il faut raison garder sur toutes ces mesures. Je reviens aussi à la question des grosses voitures, des SUV. C'est bien beau de dire « Oh, les SUV, c'est l'horreur, etc. » Sauf que beaucoup de Français modestes, figurez-vous, partent en vacances avec une caravane. Expliquez-moi comment vous tirez une caravane, hein, si vous voulez partir en vacances avec une voiture électrique.
Monsieur Bruno Cyr,
c'est
sérieux? Vous pensez que l'augmentation du nombre, la vente de SUV en France est liée au parc de caravanes?
Je pense qu'il y a un lien.
On regardera les chiffres et on rigolera, je pense, après l'émission.
Non, il y a un lien très net, parce que je vais vous dire, moi-même qui ai une voiture qui peut permettre de tirer une caravane.
Ah, c'est une situation personnelle, je comprends.
Non, mais
je pense pas que ce soit une situation politique.
Non, mais j'ai vécu ça, je le vis. Vous avez des cartes grises où le poids de la voiture vous limite sur le poids de ce que vous pouvez tracter. Donc, si vous avez une voiture qui n'est pas assez lourde, vous ne pouvez pas tirer une caravane. Mmh. Et pour beaucoup de gens, c'est plus possible de partir en vacances. Donc, c'est le genre de truc qu'il faut aussi intégrer dans vos raisonnements. Tout le monde n'a
vous,
pas...
Vous êtes contre le malus sur les SUV, en fait.
Non, le malus sur les SUV, c'est pas la question. Ah, mais contre les SUV de façon radicale, oui, je suis
alors,
contre.
Alors, Ulrich Terrier, vous qui venez du Gers, oui. sur ces questions-là, je pense que vous êtes bien au courant. Qu'est-ce que vous pensez de ces annonces, les taxes supplémentaires sur l'électricité, qui, bon, pour l'instant, vont toucher tout le monde, et notamment les agriculteurs, ou la fiscalité environnementale sur les véhicules les plus polluants?
Bien sûr. Alors, pour revenir dès à présent sur les véhicules polluants, je pense qu'il y a aussi une autre solution qui sont les voitures électriques. Il y a un gros effort qui a été fait par le gouvernement sur l'aide à l'achat des voitures électriques, notamment pour les populations les plus précaires, puisque on le sait, les voitures électriques aujourd'hui sont un petit peu plus chères que les voitures thermiques. Mais il faut qu'on aille dans ce sens-là, puisque c'est ce qui permettra demain de pouvoir rouler, puisque dans les campagnes, c'est une nécessité d'utiliser sa voiture. Je le vis au quotidien. On ne peut pas se déplacer qu'avec le train ou avec d'autres moyens alternatifs à la voiture. Donc, il faut penser aussi à ce public-là. Pour les agriculteurs, c'est les premiers écologistes. Les agriculteurs, ce sont ceux qui façonnent nos territoires, nos paysages. Et aujourd'hui, ils sont tous, et je peux vous le dire, ils ont conscience de cette nécessité de devoir produire mieux, de devoir produire bien, en incluant les circuits courts, la vente directe, pour faire manger les enfants dans les cantines scolaires, pour pouvoir nourrir les gens à proximité. Par rapport au prix de l'électricité, il faut savoir qu'il y a eu une baisse quand même de 9% dernièrement. L'électricité est au prix le plus bas de ce que nous autorise le marché européen qui est réglementé. On parle effectivement qu'il y ait une augmentation avec une taxe. Cette taxe, à l'heure actuelle où on se parle, elle est à 60 € par an. En parallèle de ça, pour les ménages les plus modestes, puisque, encore une fois, le gouvernement tient une attention particulière à pouvoir accompagner les plus modestes, avait débloqué déjà l'année dernière 5 millions de Français un chèque énergie qui allait jusqu'à 277 € par personne. Et je peux vous dire que ce chèque a été le bienvenu et les Français ont pu nous le dire, notamment les plus précaires, que ça leur a permis de payer leur électricité et de devoir et de pouvoir se chauffer, puisque c'est une nécessité. Il ne doit pas y avoir que les riches qui peuvent profiter des avantages.
Il y a deux choses différentes quand même sur le marché de l'énergie. Il y a le prix de l'énergie elle-même, électricité, gaz ou autre, et il y a la redevance que l'État peut percevoir là-dessus. Là, il s'agit d'augmenter la redevance. C'est-à-dire que si nous n'augmentions pas cette redevance, les marchés, le prix de l'électricité serait largement en baisse en 2025. Mmh. C'est ce qui est prévu par le marché européen de l'électricité. Donc mais... là, la décision, et c'est pas simple, hein, la décision de relever les taxes fait qu'on aura une électricité qui sera plus chère et que tout le monde va contribuer à cet effort d'une manière sans aucun discernement.
D'abord, elle ne sera pas plus chère. Les taxes sont chargées de compenser la baisse du prix de l'électricité. Mais je voudrais revenir sur un point important que vous avez soulevé concernant les voitures électriques. Le tout électrique, c'est la mort de l'industrie automobile européenne. Ça va coûter extrêmement cher. Donc là encore, pour faire plaisir à quelques écolos qui sont dans
quelques
le
écolos, je vous ai pris. C'est voté par la Commission européenne.
Oui, mais
quelques écolos.
Parce que les écolos sont, en France, vous représentez pas énormément de voix. Donc,
vous croyez que c'est pour faire plaisir à quelques écolos qui
sont mis en œuvre. Là dedans, la transition est extrêmement mal géré, et quand on aura des milliers et des milliers de gens qui se retrouveront au chômage parce qu'ils ne pourront plus travailler dans le secteur automobile, on ne sacrifie pas un secteur automobile comme celui qu'on avait en Europe sans réfléchir. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de se mettre pieds et poings liés dans les mains des productions de voitures chinoises électriques.
Vous reprenez
c'est pas
le discours
possible.
De Rassemblement National.
Mais je prends le
européenne.
Discours du bon sens, monsieur, le discours du bon sens. Qu'est-ce qu'on va faire de tous les gens qui travaillent travaille dans le secteur de l'automobile.
J'attends avec attention votre projet de sortie du fossile en 2050.
Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, innover et essayer de trouver des entreprises et des filières à valeur ajoutée, avec une grosse valeur ajoutée, pour justement pouvoir produire en France sur des pièces de voiture ou des objets particuliers et pouvoir réinstaller des entreprises enfin en France pour atteindre le plein emploi et retrouver notre maîtrise industrielle française.
Mais vous, vous êtes pour la sortie du véhicule thermique en 2035?
Moi, elle ne se fera pas en 2035.
Je suis,
soyez réaliste,
pour aller vers les voitures électriques sur le long terme, avec deux enjeux. Le premier, c'est en 2035.
Mais vous êtes toujours sur la même position que votre candidate aux européennes?
Bien sûr.
Bon, ben voilà, c'est 2035.
Alors,
ça ne se fera pas, je tiens à le dire. Et deuxième chose, on a un prix d'électricité qui est aussi cher et aussi difficile, c'est parce que les écologistes nous ont fait sortir.
Décidément, qu'est-ce qu'ils
vous
font du mal?
C'est vrai, vous avez fait énormément de mal à nos pays, notamment la question du nucléaire. Et les écologistes allemands ont réussi à ce qu'on supprime toutes les centrales
nucléaires. Oh, vous sortez
tous
les lieux communs anti-écolo et M. Bruno Schier, vous allez mieux que ça.
Mais c'est toujours vrai, c'est toujours vrai.
Pour ajouter un dernier élément quand même.
Très vite, s'il vous plaît.
Très vite, j'élargirai plus au nouveau Front Populaire, puisque en 2023, nous avons baissé les émissions de CO2 de 4,8%, ce qui correspond à autant en une année que les 5 années où étaient au pouvoir les socialistes avec les écologistes et les communistes. Donc
absolument,
eux-mêmes qui viennent nous donner des leçons aujourd'hui en disant que nos mesures ne sont pas les bonnes, il faut regarder ce qu'ils ont fait.
Et vive le nucléaire.
Non, parce que là, on va...
Bon, parce qu'il y a un rapport du Haut Commissariat au climat
si voulez,
sur la
là,
question
sur
de cette baisse. Et cette baisse est une bonne nouvelle, hein.
Oui.
Mais elle est aussi peut-être plus conjoncturelle que structurelle.
Juste pour terminer là, sur le budget 2025, bon, on sait que tout ça va être discuté encore pendant quelques temps. Est-ce que vous pensez, comme semble le penser également Bruno Cire, qu'on va vers un 49-3, qu'on ne pourra pas y échapper, et que le gouvernement va pouvoir continuer comme ça ou qu'il risque d'être bloqué pour de bon et qu'il tombe?
Non, honnêtement, je ne sais pas où on va au niveau du Parlement d'une manière générale sur l'équilibre entre le Parlement, Sénat et puis la volonté du gouvernement. Puisque nous sommes dans une situation d'instabilité politique qui est de la responsabilité du président de la République.
Et qui est complètement inédite.
Et la décision de la dissolution de l'Assemblée nationale, je crois que même dans son camp, hein, je crois que M. Attal ne dirait pas le contraire, on n'a toujours pas compris quel était l'objectif de cette dissolution.
Il y a déjà eu des émissions
sur
ce sujet, oui.
Voilà. Et pour le coup, nous sommes dans une situation absolument ingouvernable. Et je ne vois pas, effectivement, comment il peut obtenir une majorité sur les éléments politiques qu'il va proposer et en l'occurrence sur le projet de loi de finances.
Personne n'a la majorité. Donc
même avec certains amendements.
Personne n'a la majorité et ça peut être intéressant parce que ça permet de construire des compromis politiques.
Exactement.
Mais aujourd'hui, dans le projet de loi de finances tel
oui,
qu'il est...
La première chose que vous avez faite, c'est de déposer
présenté,
une motion de censure. Donc,
la première chose que nous avons
construire,
faite...
Construire, il ne faut pas vouloir démolir d'abord.
Pardon. Première chose que nous avons faite, c'est de proposer une candidature pour les fonctions de Premier ministre et nous déclarer disponibles pour composer un gouvernement.
Oui.
Ça n'a pas été accepté par le président de la République.
Mais parce que vous n'êtes pas majoritaire.
Au mépris du rôle des institutions.
Mais non, vous n'êtes pas majoritaire. Vous avez essayé de nous persuader que vous étiez majoritaire. La preuve que vous l'êtes
Monsieur
pas.
Monsieur Barnier doit l'être. Nous le verrons dans quelques jours.
On a déjà fait ce débat, je ne sais pas combien de fois. On ne va pas le refaire encore ce soir. Vous n'êtes pas exprimé sur la question que je viens de poser, Ulrich Terrier. Vous pensez qu'on va vers un 49-3 et que le gouvernement, comme le pense Bruno Cire, va pouvoir continuer encore quelques mois comme ça?
Alors, je pense qu'il doit y avoir lieu d'avoir un débat au Parlement entre les députés et les sénateurs qui sont en train d'étudier le texte, de l'amender. Et j'espère qu'il y aura des amendements de bon sens qui vont venir de tous les partis politiques et qui vont pouvoir faire, à l'arrivée, un budget qui soit acceptable pour tout le monde et qu'on puisse le voter. Puisque aujourd'hui, ce qui se profile, c'est que les oppositions en bloc retirent leur soutien à ce budget, ce qui nous conduirait à utiliser le 49-3, ce que je trouve dommageable, alors qu'on peut enfin gouverner par consensus et essayer de trouver des solutions qui peuvent convenir à tout le monde et pouvoir enfin avoir un budget pour 2025 qui soit voté par la plus large majorité possible.
Ça, c'est peu probable, hein,
alors,
que ça se passe comme ça.
Oui,
la probabilité,
il faut du
c'est...
bon sens.
Mais oui, non, mais bien sûr, mais à la fin, personne n'aura intérêt à faire plaisir au gouvernement de M. Barnier. Et donc, ils se garderont de le voter. Il y aura donc, ça passera en 49-3, mais ils ne feront pas tomber le gouvernement pour ça.
Parce qu'ils gardent tous leur
posture pour 2027. Parce que personne n'a intérêt à ce que le gouvernement tombe. Personne n'a envie d'avoir des élections législatives maintenant, à part les extrémistes de gauche.
Voilà,
les extrémistes de droite n'y ont pas intérêt.
Le projet de budget est examiné par la commission des finances depuis mercredi. Il y a déjà la taxe sur les revenus. Ils ont voté la suppression de son caractère temporaire. Ils veulent limiter les possibilités d'optimisation fiscale. Bon, à suivre de toute façon. Jusqu'à samedi, examen à l'Assemblée de ce projet de loi de finances 2025. Nous allons faire pour notre part une petite pause comme d'habitude. On se retrouve tous les quatre dans une vingtaine de secondes. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info. Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne. Je suis toujours en compagnie de Régis Godec, Bruno Cyr et Ulrich Terrier. Lundi, un hommage a été rendu dans toutes les écoles de France à Samuel Paty et Dominique Bernard, les deux professeurs assassinés sauvagement en 2020 et 2023 par de jeunes terroristes islamistes. Il y a eu des prises de parole à cette occasion de la part de Michel Barnier, le Premier ministre, ou d'Anne Genetet, la ministre de l'Éducation nationale. Ces cérémonies ont parfois été perturbées une fois de plus par des élèves ou parents d'élèves en certains endroits. Un an après la mort de Dominique Bernard, où en est-on, selon vous, dans la protection des professeurs menacés ou agressés dans leur classe et même souvent en dehors? Qu'en est-il de la prise en charge des élèves radicalisés ou des sanctions contre ceux qui agressent les enseignants? Bref, les choses ont-elles changé ou pas? Bruno Cyr, quel est votre avis sur ces questions?
Je pense que les choses n'ont pas beaucoup changé, malheureusement, et on peut s'attendre à ce qu'il y ait des événements comme ça recommencent dans l'avenir. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet extrêmement difficile. On se retrouve face à des gens qui ont une religion, l'islam, qui est incompatible dans un certain nombre de points avec les lois de notre République.
L'islam est incompatible avec les lois de la République, c'est ça votre
phrase ? Oui, l'islam radical est incompatible avec les lois de la République.
Vous aviez oublié un mot.
Oui, l'islam radical. Mais c'est une religion et il y a un courant dans cet islam qui est radical et qui est très important, qui est incompatible avec les lois de la République. Je m'explique. Les lois de la République, c'est liberté. Elles sont assises sur trois choses: liberté, égalité, fraternité.
Et laïcité.
La laïcité a été rajoutée ensuite, mais au départ, liberté, égalité, fraternité. Or, les lois de la République, l'islamisme tel qu'il est, n'accepte pas que les mêmes lois s'appliquent aux filles et aux garçons, et n'accepte pas aussi qu'un certain nombre de minorités, je pense par exemple aux homosexuels, etc., veulent qu'il y ait des lois spécifiques parce que l'islam dit que ces gens-là ne doivent pas être traités comme les autres. Donc ça, c'est absolument incompatible avec les lois d'égalité où, justement, on ne doit faire aucune différence entre hommes, femmes, entre préférences sexuelles ou entre religions des uns et des autres. C'est la fameuse loi de 1905 sur la laïcité où chacun est libre d'exercer ou de ne pas exercer et il faut respecter ça. Donc on est dans cette incompatibilité et effectivement, l'endroit où se focalise l'apprentissage du vivre ensemble, du vivre en commun, c'est l'école. Donc l'école est un lieu de tension pour les islamistes. Et malheureusement, on le voit, il y a des jeunes filles voilées dans tous les collèges et les lycées de plus en plus. Et or, ce n'est pas acceptable. Moi, je comprends, les lois de la République ne doivent pas transiger là-dessus. Et je trouve qu'on a besoin de beaucoup de fermeté, mais même avec de la fermeté, c'est un combat qui est engagé par les islamistes contre notre République, et je pense qu'il faut en prendre la mesure. Je crois que c'est malheureusement pas fait, d'autant que une partie de la classe politique souffle sur les braises et encourage à ce communautarisme. C'est pas compatible avec les lois de notre République. Donc moi, je suis extrêmement inquiet sur l'évolution.
Donc pour vous, il n'y a pas eu beaucoup de changements?
Non, il n'y a pas de changement parce que c'est un changement sociologique.
Il y a tout lieu d'être inquiet autant qu'il y a un an.
Oui, malheureusement, oui.
Ulrich Terrier.
Alors moi je serais plus nuancé, il y a eu plusieurs mesures qui ont été réalisées par Gabriel Attal et ensuite par Mme Genetet qui a commencé à s'inscrire dans la continuité de M. Attal. D'abord, nous avons eu le renforcement de la protection fonctionnelle des professeurs. Aujourd'hui, chacun des professeurs qui se sent menacé et qui fait une demande de protection était à 100% par la hiérarchie. Il y en a eu 4 000 agents l'année dernière. Ensuite, il y a des textes qui existent, il faut les appliquer. La laïcité n'est pas une valeur à géométrie variable. Il y a eu une alerte maximum sur les menaces en ligne, puisqu'on le sait, les réseaux sociaux sont un lieu où se prolifèrent des menaces, des insultes, etc. Et on doit être très vigilant là-dessus. Il y a également eu des référents violence qui ont été mis en place dans les milieux scolaires, dans chacun des départements, pour que les professeurs et les élèves puissent être accompagnés lorsqu'ils se sentaient menacés ou qu'il y avait une question de laïcité qui était mise sur la table. Et enfin, toute contestation d'enseignement donne systématiquement lieu à une procédure disciplinaire. Aujourd'hui, il faut être ferme. Il faut continuer de lutter contre l'ignorance et le fanatisme qui peuvent mettre en péril notre école de la République. Je pense que Mme Jeunté a fait des annonces importantes, a repris celle de Gabriel Attal qui, l'année dernière, a interdit le port de l'abaya et du camis, ce qui a permis de diminuer drastiquement les signes religieux ostensibles dans les milieux scolaires, puisqu'à la rentrée 2024, on dénombre 100 actes qui ne respectent pas les lois de la laïcité, contre 800 l'année dernière. Donc on voit que grâce à des mesures fermes et de laïcité, les choses avancent, mais il faut continuer à être ferme sur cette question.
Régis Godec.
Bon, tout d'abord, c'est un sujet grave hein, et dont il ne faut pas minimiser la problématique dans notre pays.
Il y en a qui
pays.
Vivent au quotidien, malheureusement.
Nous le vivons tous et tout au quotidien, d'une certaine façon.
On parle des professeurs.
Bien sûr, la question de l'insécurité et l'exposition au risque d'attentat. Les professeurs, mais d'autres aussi, notamment des personnes qui sont en charge de la sécurité en France, sont exposées plus que d'autres à ce risque d'extrémisme. Et il faut le prendre à bras le corps, tout d'abord en développant des moyens de lutte contre la radicalisation. La radicalisation qui existe effectivement dans certains mouvements islamistes, il ne faut pas avoir peur de le dire, moi je n'ai pas peur de le dire, mais qui existe aussi dans d'autres espaces de la société, dans des mouvements politiques parfois, et aussi à l'extrême droite. Il y a aussi un risque extrêmement fort de radicalisation dans des mouvements d'extrême droite, et il faut que la République soit
dans
forte.
Dans l'extrême gauche, vous trouvez que madame...
Non, attendez,
ah bah oui.
Je termine. Et il faut des moyens publics qui soient développés pour lutter contre la radicalisation, et notamment dans les services de renseignement généraux, puisque nous avons la responsabilité de renforcer les surveillances, et pas la surveillance massive, mais la surveillance individuelle des trajectoires d'un certain nombre de personnes qui pourraient être aspirées dans des mouvements de radicalisation ici ou là. Et la République est importante à protéger et nous devons évidemment nous prémunir des ennemis de la République qui sont à plusieurs endroits de la société. Ce qui m'inquiète un petit peu dans le débat, et on l'a vu à l'instant, c'est de ne pointer que certains concitoyens et d'élargir le spectre des suspects à des personnes qui ont fait le choix ou pas d'être d'une appartenance religieuse, d'une certaine croyance. Je crois qu'il y a des glissements qui se font, malgré nous, et que parfois peut-être on peut manquer de vigilance, je vais le prendre comme ça, et qu'on stigmatise certains citoyens en disant, comme vous l'avez fait peut-être maladroitement tout à l'heure, l'islam est l'ennemi de la République. Attention, avec ces propos, on considère que tous les citoyens, les concitoyens musulmans, sont potentiellement des ennemis de la République, et que dans cette religion, il y a des aspirations contraires aux valeurs de la République. Moi, je ne crois pas ça. Je crois qu'on peut vivre avec sa croyance dans, évidemment, le respect de la laïcité, avec les éléments de la République. Et nous avons vécu des guerres de religion dans notre pays par le passé. Et les valeurs de la laïcité nous ont permis de sortir de cette confrontation. La laïcité, moi j'ai siégé au Conseil de la laïcité à la ville de Toulouse. C'est une valeur qu'il faut défendre, et par des mesures précises. Mais il faut être aussi vigilant à l'encontre des personnes qui sont dans la volonté d'instrumentaliser la laïcité à des fins politiques.
Alors vous avez raison, il ne faut pas pointer évidemment tous les musulmans. Hein, le fait est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, lorsque remontent des problèmes à l'éducation nationale, de menaces contre des professeurs, contre des élèves, ou parfois contre des élèves malheureusement juifs, c'est souvent des élèves d'origine musulmane qui pratiquent l'islam qui posent ce problème. Vous pensez qu'on se focalise trop sur ces cas-là, qu'ils ne sont pas si nombreux que ça?
Attention Eric, hein, quand vous dites ça,
c'est pour ça que je vous pose la question.
Vous désignez une communauté de suspects.
Non.
Vous désignez une communauté de suspects. Vous dites, attention, les personnes qui sont de confession musulmane.
Je vous pose une question.
Il y en a un certain nombre d'entre elles. Le risque vient de là.
Aujourd'hui, les cas qui sont remontés, je vois pas d'autres, ce sont des cas. Je vous pose la question. Est-ce qu'on se focalise trop sur ces cas-là et qui sont moins nombreux qu'on pourrait le croire?
Moi, je ne veux pas prendre le risque de laisser penser que je minimise la difficulté et le phénomène de la radicalisation dans notre société. Donc je ne dirais pas qu'il y a une surinterprétation, quoi que ce soit, mais je dis faisons attention en désignant les adversaires de la République, les ennemis de la République, de ne pas dans le même temps désigner comme potentiels suspects un certain nombre de concitoyens qui demandent simplement à vivre paisiblement leur religion.
Ulrich Terrier, sur la question que je pose, vous pensez qu'on se focalise trop sur les cas, les problèmes que peuvent poser certains élèves de confession musulmane qui agressent leurs professeurs, qui les menacent? Il n'y en a peut-être pas autant qu'on le pense, c'est ce que semble dire Régis Godec.
Les faits montrent qu'effectivement, les élèves qui posaient en majorité problème c'était des élèves qui étaient de confession musulmane. Mais aujourd'hui, effectivement, on ne pointe pas que la religion musulmane. Dès qu'il y a une atteinte à la laïcité, que ce soit de la religion musulmane ou que ce soit de d'autres religions...
Lesquelles, par exemple?
Il peut y avoir, par exemple...
Vous avez des exemples?
Oui, il est déjà arrivé que dans des écoles, il y ait des élèves qui soient catholiques qui portent une croix qui était très ostensible et qui n'ont pas voulu la retirer. Mais encore une fois...
J'ai jamais entendu des choses pareilles.
C'est déjà arrivé, mais c'est une minorité.
Oh, non.
C'est une minorité.
C'est
et
trop
aujourd'hui,
facile, ça.
Moi, je ne pointe pas une communauté religieuse particulière. Quelle que soit la communauté religieuse, lorsqu'elle devient radicale, il faut être intransigeant. Il y a des règles. Les règles, ce sont celles de l'école, pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Et lorsque le principe de laïcité n'est pas respecté, alors l'éducation nationale doit être très ferme, doit imposer des sanctions qui soient très fermes et soutenir absolument ses professeurs qui exercent un travail remarquable et qui permettent de pouvoir élever et instruire les élèves.
Alors, Bruno Cyr...
La sœur de Samuel Paty disait hier à la télévision qu'elle trouvait que rien n'avait changé depuis l'assassinat de son frère. Donc tout ça, c'est des paroles, c'est bien joli, mais en réalité, je pense que le problème est beaucoup plus large que ça. Et le problème, c'est l'islamisme. Moi, j'attends que les musulmans modérés dénoncent les islamistes, dénoncent les frères musulmans, parce que c'est un vrai gros problème. Alors, je veux bien... il ne faut pas les désigner, etc. Mais
vous faites des amalgames.
Il ne faut pas faire d'amalgame.
Le jeu de l'extrême droite. Je ne sais pas si c'est tout à fait naïf dans votre bouche, mais en désignant un adversaire...
Laissez-moi finir d'abord, et ne me dites pas...
exactement le jeu de l'extrême droite. Je crois que vous le savez.
Non, je ne fais pas le jeu de l'extrême droite. Et je trouve que, de toute façon, il y a beaucoup de gens dans ce pays qui trouvent qu'il y a un problème avec les islamistes, et je pense qu'il faut régler ce problème. Et si vous pensez qu'il n'y a que l'extrême droite qui s'intéresse à ça, d'abord, je pense que vous avez tort, et ensuite, je ne vois pas pourquoi on le reprocherait à partir du moment où il y a quand même 11 millions de Français qui votent pour les gens que vous qualifiez d'extrême droite et qui, justement, défendent ces valeurs. Donc moi, je suis démocrate, et je parle avec
mon sens.
Mais
vos sympathies pour le Rassemblement national sont assez visibles.
Non, je ne vous permets pas de dire ça. Je n'ai jamais eu d'engagement politique. Je n'ai jamais voté pour le Rassemblement national. Donc, monsieur, je vous en prie, ne me donnez pas de leçons. Mais vous, à force de vouloir jeter un voile pudique sur des choses
je
et
ne l'ai pas
les nommer, eh ben, les problèmes ne sont pas réglés.
Je ne l'ai pas fait, mais je refuse
que oui, l'on puisse stigmatiser de
clair, un certain nombre de nos concitoyens en fonction de leur religion. Parce que
mais
ça, monsieur
les islamites Cire, parce sont dangereux, ça, monsieur.
Oui, mais vous parlez...
Ils sont contre les valeurs de la République. Et tout à l'heure, quand vous
faites amalgame,
dit que c'est... Je ne fais pas d'amalgame, monsieur. Arrêtez avec ce mot d'amalgame. Qui
entre la radicalité et la croyance. Et en faisant ça...
Moi, je suis républicain, monsieur.
Vous portez des paroles contraires à la laïcité.
C'est pas vrai. Je suis républicain.
Personne ne peut être inquiété pour sa confession.
Arrêtez de me couper la parole. Je défends les valeurs de la République et je vous mets au défi de me citer un pays dans lequel les valeurs de liberté, égalité, fraternité sont respectées lorsque ce sont des islamistes qui sont au pouvoir. Citez-moi un exemple.
Ben non. Alors, par définition, l'islamisme est une théocratie et je ne vois pas pourquoi il respecterait la laïcité.
Voilà, mais donc, et donc ces valeurs sont incompatibles avec les valeurs de notre République. Donc
il y a d'autres théocraties qui ne sont pas non plus de laïcité, parce que par définition, une théocratie n'est pas laïque.
Non, mais de toute façon, le principe de liberté et d'égalité n'est pas respecté.
On n'en est pas encore là, heureusement, à une théocratie en France. Ulrich Terrier, je vais vous laisser le dernier mot, puisqu'il nous reste une petite minute.
Alors, je dirais simplement qu'aujourd'hui, le gouvernement... est très clair sur l'école, sur la laïcité, en fait toujours sa priorité et continuera à appliquer les lois pour que les élèves puissent s'épanouir à l'école, puissent s'instruire. Et c'est ce qui permettra, je pense, d'avoir une société solide, une société sur ses deux jambes au niveau des valeurs de la République. Et je pense que ce gouvernement doit avoir sa chance. Puisque nous sommes dans un moment politique décisif où il faut arrêter les postures. Quand je vois que Europe Écologie Les Verts aujourd'hui critique parfois LFI, mais pourtant s'allie avec eux pour toutes les élections, ça ne leur pose pas de problème. Donc aujourd'hui, chacun doit faire des efforts et retrouver le sens du consensus. Alors,
malheureusement, l'émission est terminée, on ne peut pas aller plus loin.
Bon, on soulignera quand même 4000 postes d'enseignants en moins pour plus de laïcité.
Ça a été dit tout ça. C'est la fin de cette 166e mêlée de l'info. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé. Bravo à Ulrich Terrier, dont c'était la première dans cette émission. Merci aussi à Coraline Camebra, qui officie encore aujourd'hui à la régie technique. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et merci encore à nos auditeurs d'avoir été fidèles à notre écoute. Rendez-vous maintenant jeudi prochain. À bientôt.